Le plaisir d'obéir pousse l'homme à faire des rois, et le plaisir de changer à leur couper la tête. Ensuite, les rois lui manquent. Il célèbre ceux des autres, leurs femmes, leurs belles-sœurs, leurs amours, leurs sentinelles, leurs valets de chambre. Il publie les mémoires de leurs maîtres d'hôtel. Il cite les bons mots de leurs bassets. Il en emplit les journaux les plus lus. Il loue pour sa nuit de noces, dans le palais défraîchi de quelque prince teuton, la chambre humide où mourut une vieille dame qui était cousine de deux empereurs. Il cherche à se frotter aux idoles pour que la dorure lui en reste aux doigts. Il chante l'égalité, sans doute, mais le cœur n'y est pas. Ce qu'il voudrait, c'est d'être plus égal que les autres. Ce qu'il aimerait, ce serait d'être roi. Pour pouvoir le devenir, il veut que tout le monde le soit. Il crée des rois de poissons secs, du rock'n'roll, du bout dur et du chapeau mou, de la prose, des vers et du n'importe quoi. Des monarques qui durent deux jours pour qu'un autre leur succède plus vite, des trônes accessibles à tout le monde, des prix pour tous, des couronnes, des honneurs. Un prix Goncourt, au temps passé, faisait 15 ans, il fait 3 mois. On crée des rois avec des gagnants de mots croisés, des vedettes, avec le monsieur qui a cru voir l'assassin, avec l'expert en chaise cannée, l'homme qui a mangé une tête de veau en 12 minutes, et celui qui a été guéri par les petites pilules qui nettoient. S'il est une chose insupportable aux démocrates, c'est le plaisir de l'égalité. Il veut des records, des stars, des personnages mythiques. Il veut, à la limite, que son premier ministre mange à la foire une vache en sucre grandeur nature. Et il aime les records dans l'absurde, parce qu'en même temps, il les méprise, et qu'il a l'espoir de succéder. Il faut que le champion passe vite, qu'il y en ait d'autres, et que son tour vienne, pour qu'il ait lui aussi sa photo dans le journal. Il désire des rois de jeux de massacre, parce qu'il vaut mieux que le titre aille au mérite douteux, autrement ce ne serait pas juste. Le même aurait tout, titre et mérite à l'un, la place à l'autre, c'est une bonne loi. J'ai vu des gens attendre à leur fenêtre de voir passer pour s'exclaffer, tant ils trouvaient la chose bouffonne, le député qu'ils avaient élu. Parallèlement, on valorise le rien. C'est une façon de multiplier les rois. On appelle le collège lycée, collège l'école complémentaire. On donne du galon au néant. Dans le vocabulaire communiste, le poinçonneur du métro s'appelle un travailleur. Le chirurgien qui a ouvert 2 ventres et 4 têtes dans sa journée et qui recommencera le lendemain n'a pas droit à ce titre éminent. Le valet de ferme s'appelle un auxiliaire technique. Auxiliaire technique agricole. Pourquoi faire ? Pour le rendre grotesque, le valet de ferme est un homme utile et compétent. Pourquoi chercher à le rendre ridicule? Quant au bachot, on a donné son nom à une parodie d'examen qui ne réclame même pas du gagnant la connaissance de l'orthographe. Un député a sagement proposé une loi qui le donnerait à tout le monde, d'autorité, à l'âge de 18 ans. Ce serait une grosse économie. Partout, c'est la haine de la chose et le culte de son apparence. On n'aime plus que la grenouille parée des plumes du bœuf. Ce qu'il y a de curieux, c'est que le public qui connaît pourtant le processus, qu'il a voulu, et qui en est responsable, finit par croire à la grenouille qu'il a gonflée, à l'orthographe du bachelier qu'il a voulu sans orthographe, à l'autorité générale de l'immense monsieur Testevide, qui n'a pourtant son portrait dans le journal que pour avoir été sauvé de l'engorgement du foie par le dépuratif qui guérit. C'est lui qui atteste en tout. Il fait autorité. Autrefois, on aurait demandé la publicité d'un stylo à la marquise de Sévigné, d'un tailleur à Brumel, d'un fourneau à Landru. Maintenant, c'est à monsieur Testevide. Il est interchangeable. Il est universel. C'est lui qui cautionne toutes les gloires. C'est la perfection même de son anonymat qui lui confère toute compétence. « Regardez bien cet homme, » dit la publicité. « C'est un expert en chaise cannée. » On le regarde, on ne remarque rien. On cherche sur son front la marque du génie, une lueur, je ne sais quoi, quelque protubérance qui serait la bosse des chaises canées ou du capsulage des bouteilles. Mais rien ne distingue sa bonne physionomie de celle de monsieur qui a appris les langues au moyen de disques ou raffermi son buste avec la pierre de lune, sinon parfois la légère calvitie qu'il s'acquiert par le sérieux de ses préoccupations. C'est exactement le même expert qui remercie M. Galuchot de lui avoir vendu sa table de cuisine. « Merci, M. Galuchot, dit-il, ça c'est du meuble. » C'est encore lui qui achète le savon chose. C'est sur sa tête que repoussent les cheveux, grâce aux produits du grand laboratoire machin, la montrant avant et après, éprouvant même par là que non seulement le grand produit fait repousser la chevelure, mais qu'il rectifie le nœud de cravate, nettoie le col et rase le menton, car après, toutes ces choses sont beaucoup mieux qu'avant. Oui, c'est lui le grand homme anonyme, c'est le roi du jour, c'est l'expert inconnu. Comme on comprend que tout le monde s'incline devant l'autorité de sa faste insignifiance. Ce n'est plus l'homme quelconque, c'est le client. Plus il est banal, plus il plaît, plus il rassure, plus il pensera comme on pense soi-même. Et c'est là le point. Il ne lui manquait que sa biographie. C'est une lacune qui vient d'être comblée, avec éclat, par l'éditeur qui a fait le livre le plus cher du monde, L'Apocalypse, illustré par Dali. L'Apocalypse de Dali est en vente pour 200 millions. C'est un de ces livres qui font date. On ne l'ouvre qu'avec un concierge. On n'en parle qu'avec des chiffres, comme du quid qui a nécessité l'exploration de 8000 volumes par 265 auteurs pour répondre à toutes les questions qui empêchent de dormir l'homme moderne, telles que le nombre des jésuites et le prix de l'hectare de terre arable dans le Loiret, ou comme le Guinness Book, le livre des extrêmes qui sait la vérité sur l'âge du plus vieux chat, et encore comme l'Histoire du Sud, le livre le plus grand du monde, qui a plus de 2 mètres de haut et un moteur de 12 chevaux pour tourner les pages. L'Apocalypse de Dali n'a que 75 centimètres de long, mais sa seule couverture pèse 80 kilos. Elle est en bronze incrusté de fourchettes. Le texte de l'ouvrage a été manuscrit par une dame poliomyélitique, avec 83 000 lettres, pas une rature et 2 années de travail. Pour ne rien laisser au hasard, Dali avait réalisé en plâtre une grosse bombe, incrustée d'une montre, d'une croix, de clous et de médailles de piété, qu'il avait lancée sur un cuivre où les objets s'étaient gravés, au vélodrome d'hiver. Et c'était sur ce cuivre qu'il avait tracé sa Pietà. Tels sont les progrès de l'industrie. On a d'ailleurs inventé, depuis, le pinceau à air comprimé, un pinceau rotatif de 1500 tours minute qui va 798 fois 0,5 plus vite que Michel-Ange lui-même. Et la peinture à la hache de bûcheron qui sera suivie très prochainement, n'en doutons pas, de l'aquarelle au sable d'abordage. Quoi qu'il en soit, c'est l'éditeur Forêt qui, misant à la fois sur le talent, le travail, la qualité, la badauderie et le snobisme, le prestige et l'ésotérisme et le succès des moustaches de Dali, a fait faire à la bombe ce livre prodigieux qui se raconte avec des anecdotes au prix desquelles l'intérêt du texte n'est plus qu'un prétexte léger. On voit par là qu'il connaît son siècle et son métier. Un siècle où ce qui passionne, plutôt que l'information, c'est le nom du speaker qui annonce, d'une voix aimable et quelque chose d'engageant, la perte de quelque territoire grand 15 ou 20 fois comme la France, où le metteur en scène vous explique qu'une pièce est une proposition que l'auteur fait au metteur en scène. C'est-à-dire que Molière, Shakespeare ou Euripide sont des prétextes retouchables aux inventions de M. Durand et à ses humeurs et ses enjolivures. Ou Mademoiselle Machin, célèbre pour son buste, a plus de droit que l'auteur sur le texte d'une œuvre qu'on veut adapter à l'écran, où le tailleur, autrement dit, a le droit de vous couper les jambes plutôt que d'allonger le pantalon, où ce n'est plus au peintre des décors de faire valoir une œuvre de Hugo, mais à Hugo de faire valoir le peintre, à M. Tartampion de raconter Racine, mais à Racine de raconter M. Tartampion. C'est du moins ce que j'apprends par une annonce de presse qui propose, pour un prix d'ailleurs assez sérieux, à tout homme désireux d'avoir sa biographie, de la commander aux éditions Forêt, à quelque écrivain distingué, avec portrait et illustration. Elle lui sera livrée sans délai, dans un emboîtage de haut luxe. Attendons-nous à voir bientôt paraître, sous la plume d'Henri de Monterland, de Jean Paulhan ou d'André Mauroy, la vie de M. Testevuide. On y lira l'histoire de sa rougeole et son certificat d'études, peut-être même de ses oreillons. Lecoq avait prévu la chose en écrivant dans ses nouvelles cette belle vie de John Smith, où le client du métro et le parfait abonné du gaz peuvent mirer en eux-mêmes leur grisante aventure. C'est ainsi que la célébrité sera mise à la portée de tout le monde. Il ne restera plus qu'à faire par Rodin une statue de l'usager de l'autobus, en bronze moulé, très légèrement pensive, et à la mettre dans un square important. Ne riez pas, mais saluez au passage, c'est le monument du roi de l'époque, c'est la vraie statue du client. Alexandre Vialette. La statue du client.